humanitaire. Humanitaire, pour une bonne visibilité des actions d'aide et de protection des populations en Côte d'Ivoire sur Radio de la Paix. Présentation Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous. L'ONG Aide et soutien aux femmes et enfants vulnérables, ASOFEV, est aujourd'hui au centre de notre première rubrique « Action ». Les activités de cette association nous seront présentées dans quelques instants par Abel César Cassin. Ensuite, nous dresserons le portrait de notre humanitaire du jour, notamment Boza Jean-Guillaume. Il s'est mis au service des personnes souffrant d'insuffisance rénale à travers une association qu'il a créée en novembre 2021.
Action humanitaire.
Comme dit à l'entame de cette émission, retrouvons pour la première rubrique Abel César Cassin qui aujourd'hui nous présente l'ONG Aide et soutien aux femmes et enfants vulnérables, en abrégé ASOFEV.
Dans le cadre de l'émission humanitaire Radio de la Paix, s'entretient ce jour avec Mylène Doucouré. Elle est la présidente de l'ONG ASOFEV, ONG créée en 2022.
Mylène Doucouré, j'œuvre beaucoup dans le social. Mylène Doucouré est basée à Data, village situé à 9 km de Divo, sur l'axe Divo-Iré. Je suis à Data depuis 2020 dans le cadre de mes activités. J'ai créé à Data un centre artisanal où vous pouvez trouver tout ce qui est accessoires et pagnes faits à partir des fibres végétales de raffia, d'antiaris africana et aussi de fibres de bananier.
Nous allons revenir à cela. Vous avez créé une ONG. Une ONG, pourquoi faire?
L'ONG ASOFEV a été créée en 2022. L'idée m'est venue parce que j'ai pour ambition d'aider les personnes vulnérables. J'entends par personnes vulnérables les handicapés, les orphelins, les veuves et aussi des prisonniers, des personnes qui sont abandonnées dans les prisons.
Dans ce sens, qu'est-ce que vous avez déjà pu réaliser?
Nous avons déjà offert 40 tenues traditionnelles à des orphelins d'un village de Lakota. Les tenues à base de jute, à base de fibres de raffia et de antiaris africana. Antiaris africana, c'est l'arbre de godet chez les Dida et tapa chez les Bété. Les Akans l'appellent onfouin.
Donc vous avez confectionné ces champs de tenues traditionnelles pour les offrir à des orphelins, pour faire quoi?
Pour leur apporter la joie. Parce qu'habituellement, je vois que pendant la fête de Mardi Gras, ce sont les parents qui ont des moyens, qui habillent leurs enfants pour pouvoir participer à la célébration. Et moi, j'ai vu ces enfants-là un peu abandonnés, laissés pour compte. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de faire des tenues et leur offrir pour cette journée de célébration des enfants dans des écoles. C'est un orphelinat qui est à Lakota.
Il nous est revenu que vous avez contribué à l'édification d'une école primaire dans un village non loin de Data ici. Quelle est l'histoire de cette école?
J'étais venu en prospection dans le village de Data. Chemin faisant, j'ai vu des enfants mineurs de la classe de CP1 au CE2 qui étaient en train de marcher sur 3 km pour pouvoir avoir accès au cours. Et pendant leur marche, j'ai vu qu'un enfant a été percuté par un taxi. Je me suis renseignée et j'ai vu que dans le village où ils étaient, ils n'avaient pas d'école. Il y avait plusieurs enfants, près de 200 enfants qui étaient obligés de se disperser pendant toute la journée pour aller dans des villages ou des campements environnants pour pouvoir avoir accès aux cours. Donc j'ai monté le projet, j'ai envoyé en Allemagne au fondateur de l'ONG Abed International qui a mobilisé les fonds parce que je suis aussi la représentante d'Abed Côte d'Ivoire. Abed Côte d'Ivoire existe depuis 2018 ici en Côte d'Ivoire. Donc le fondateur de l'ONG Abed a mobilisé les fonds. Abed veut dire association pour le bien-être de l'enfance en difficulté. Et il a mobilisé les fonds qui nous ont permis de construire 3 salles de classe, un forage et des latrines pour les élèves de l'EPP 8 kilos. 8 kilos est un petit campement qui a 3 km de Data.
orphelins, femmes, enfants vulnérables. Pourquoi cette tranche sociale?
Parce que j'ai aussi été orpheline très tôt. À l'âge de 12 ans, je n'avais plus de père ni de mère. Je me suis retrouvée seule dans la nature, donc je sais ce que peut vivre un orphelin ou une personne marginalisée. C'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers cette couche vulnérable-là. C'est une vie qui n'est pas du tout facile. Quand vous êtes orpheline, vous n'avez personne, vous n'avez aucun soutien, vous n'avez aucun parent. Parce que là, quand vous êtes dans des difficultés, vous vous retrouvez seul. Donc vous êtes obligé de vous battre, vous êtes obligé de vous frayer un chemin, vous êtes obligé de ne compter que sur Dieu et sur vous-même.
Vous êtes un modèle de réussite.
Parce que j'ai dû me forger un caractère, j'ai dû me forger une image, j'ai dû me battre pour garder le cap et avoir la tête haute. Je me suis dit que dans la vie, chacun est maître de son destin. C'est pas parce que tu es un orphelin que tu dois t'apitoyer sur ton sort. J'ai vu dans les rues ou bien dans ce village d'Ata des handicapés qui travaillent, qui ne font pas la manche dans les rues. Ça m'a donné la force, le courage de créer cette ONG pour les aider. Être handicapé et être orphelin n'est pas une fin en soi. Tu peux être orphelin et t'imposer pour être une grande personne dans la société.
Où vous trouvez les moyens pour pouvoir aider les gens?
Au départ, on travaillait à fonds propres. On se mettait ensemble, on cotisait et on faisait des dons aux orphelins. Mais nous avons la fondation Génération Serge Botta qui est au Congo, qui a décidé de nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Et c'est ce partenariat entre la fondation Génération Serge Botta et l'ONG Asofev, qui signifie aide et soutien aux femmes et enfants vulnérables, qui a donné le jour à ce festival Handimam, handicapé ou pas, marchons main dans la main.
Puisque vous nous amenez de plein pied dans ce festival, on voudrait bien avoir d'autres détails de ce festival.
Ce festival a commencé depuis 2023. Pendant le festival, nous avons eu plusieurs rubriques, des contes par sketch qui ont été organisés par des femmes handicapées. Nous avons déplacé aussi une conteuse qui est venue faire son conte ici avec les handicapés. Il y a eu le groupe de femmes Wobé qui est venu prester. Il y a un groupe de femmes Baoulé, un groupe de femmes Burkinabé et aussi les femmes Dida qui sont venues nous gratifier des pas de danse traditionnels de leur terroir pour pouvoir promouvoir les personnes handicapées qui veulent se battre et essayer de bannir la mendicité dans le milieu du handicap.
Mylène Doucouré, nous avons parlé de handicapés, nous avons parlé de ce festival. Maintenant, parlons du Centre des métiers artisanaux que vous avez créé ici.
Le Centre des métiers artisanaux, CEMAVAC, existe depuis 2021 à Data. Donc, le CEMAVAC signifie Centre des métiers artisanaux et de la valorisation culturelle. Raison pour laquelle, quand nous avons des activités culturelles, nous les réalisons au sein du CEMAVAC. Ce CEMAVAC a été créé pour former des femmes et des jeunes adolescents marginalisés ou abandonnés qui n'ont pas les moyens de payer pour se former. Donc ici, nous demandons un partenariat avec des institutions internationales ou des fondations, comme le fait déjà la fondation Génération Serge Botta, pour nous aider à aider cette couche vulnérable-là.
Qu'est-ce qu'on apprend ici?
Au sein du CEMAVAC, on fait le tissage des pagnes traditionnels africains, le pagne rafia, le pagne godé ou tapa, les pagnes baoulé, les pagnes burkinabé, des accessoires qui sont faits à partir des fibres végétales, la teinture des fibres végétales.
Vous-même, où vous avez appris tout cela?
J'ai appris ici avec les artisans que je paye, qui travaillent avec moi ici sur le centre. J'ai appris à tisser avec mes tisserands ici. C'est aussi eux qui m'ont appris à faire la teinture et les accessoires.
Alors, à tout ce que vous avez déjà dit, est-ce qu'il y a un point que vous estimez important que vous voulez ajouter?
Je veux ajouter qu'aujourd'hui, la jeunesse ne veut pas apprendre à travailler. Ce n'est pas intéressant. J'ai ouvert ce centre. Je n'ai que des personnes handicapées qui veulent vraiment apprendre. J'ai essayé d'approcher les jeunes qui refusent de se former. Je lance un message à la jeune féminine, surtout aux jeunes filles qui ne font rien, qui sont accros au téléphone portable. Elle peut venir se former demain. Quand tu connais le boulot, c'est pour toi. Quand tu apprends un métier que tu le connais, c'est ta formation, c'est ton diplôme, c'est ton travail. Et c'est toujours important d'apprendre un travail. Et le métier de tisserand est tellement beau à voir. Quand une femme tisse, c'est vraiment magnifique. Donc, j'incite les jeunes sœurs à venir se former au CEMAVAC, Centre des métiers artisanaux et de la valorisation culturelle, qui est à Data, village situé à 9 km sur l'axe d'Ivo-Iré.
Fidèles auditeurs de Radio de la Paix, nous étions ce jour avec Mylène Doucouré, présidente de l'ONG Assofev, aide et soutien aux femmes et enfants vulnérables. Merci et bonne suite de programme.
Merci à vous, Abel César Cassin, qui aujourd'hui nous a présenté l'ONG Assofev. Il s'agit d'une association créée en 2022 pour apporter aide et assistance aux personnes vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les orphelins et les personnes en situation de handicap.
Portrait d'humanitaire.
Aujourd'hui, nous sommes avec Boza Jean-Guillaume, engagé pour la cause des personnes souffrant de maladies rénales via l'ONG Groupe Santé Rénale Côte d'Ivoire. Il nous livre son témoignage en tant qu'humanitaire. Bonjour.
Bonjour Madame Zian.
Pourquoi vous avez décidé de vous mettre au service des autres? Quelle est votre histoire?
Nous avions perdu l'un des vice-présidents de l'association Groupe Santé Rénale. Il vivait avec l'insuffisance rénale. À l'heure où je vous parle, il n'est plus de ce monde. Nous avons donc mis sur pied l'association Santé Rénale pour nous permettre de nous approcher davantage des malades du rein, leur remonter le moral. Ce sont des personnes, elles sont mieux placées pour nous aider dans la sensibilisation et permettre également à ceux qui ne le savent pas encore d'être sensibilisés et se faire dépister. Donc, en un mot, en le faisant, à notre manière, nous croyons que nous aidons l'État de Côte d'Ivoire à chasser cette maladie.
Comment est-ce qu'on peut dire que vous êtes engagé en tant qu'humanitaire?
Il va falloir d'abord comprendre que M. Boza est comptable de formation. Mais en dehors de la comptabilité, je me suis engagé parce que je veux mieux m'approcher des personnes souffrantes, comprendre leurs besoins, les aider pour ceux qui sont auprès de nous et aider à sensibiliser pour ceux qui vont nous écouter à travers les médias. Donc, de la comptabilité, lorsque je me retrouve dans la peau d'humanisme, je me dis que c'est permettre également à mon prochain d'être instruit, de comprendre de quoi il est question et permettre à mon prochain de savoir comment mieux vivre. Et parler de mon engagement envers les personnes souffrant d'insuffisance rénale, c'est faire des œuvres utiles. Ce que j'appelle œuvre utile, c'est le fait de lutter contre l'insuffisance rénale et la repousser. Monsieur le directeur général du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, Sien Petit nous a fait le bilan 2023. Il y a eu 12 000 cas de maladie rénale, 12 000 cas de sujets malades du rein.
En Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire. Et sur les 12 000 cas de sujets malades du rein, il n'y a que 1% pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire au travers du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. Et donc, les 99%, comment est-ce qu'ils se traitent? Comment est-ce que ça se passe?
On va terminer, Boza Jean-Guillaume. Quel est l'appel que vous pouvez lancer?
Nous voyons au quotidien des personnes qui partent. 12 000 cas de malades, 1% pris en charge. On va dire 1 200 personnes dans les 12 000 cas. Les autres, on n'a pas encore trouvé de solution. Pour nous autres, c'est très écœurant. Il faut que l'État arrive à faire quelque chose. Je veux dire, l'État fait des choses, c'est vrai. L'État a déployé de gros moyens, c'est vrai. L'État a construit plus de 12 antennes, c'est vrai. L'État est en train de contacter les hôpitaux généraux pour y mettre des salles de dialyse, c'est vrai. Mais cela ne suffit pas. Vous voyez, par exemple, comment est-ce que quelqu'un qui est malade d'insuffisance rénale peut faire comprendre à autrui que lui préfère mieux le sida? Parce que dans le traitement du cas du sida, il y a les antirétroviraux. Il y a tout ce qui est moyen déjà mis en place. Mais dans le traitement des maladies rénales, il n'y a pas trop d'informations qui passent. Voyez, pour quelqu'un, quand on fait le point dans le coût financier de la personne qui se fait dialyser à hauteur de 80 000 francs par séance, dans le mois, c'est au minimum 400 à 500 000. Dans l'année, c'est dans 6 à 7 millions. Mais qui est-ce qui a les moyens pour pouvoir se faire aider dans ce volet? Alors, nous préconisons la sensibilisation et le dépistage pour ne pas arriver à la dialyse ou encore moins à la transplantation rénale.
D'accord, je vous remercie, Boza Jean-Guillaume. On rappelle qu'aujourd'hui, vous étiez avec nous pour nous parler de votre vie au service des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire et ce via votre ONG dénommée Groupe Santé Rénale Côte d'Ivoire qui a été créée, soulignons-le, le
6 novembre 2021. Qui a eu son agrément en août 2022 et qui a commencé ses activités en novembre 2023.
D'accord, je vous remercie.
Merci madame.
Je vous en prie. Humanitaire pour aujourd'hui referme ses portes. Nous avons eu dans Action l'ONG Assofèvre avec Abel César Cassin qui a mis en lumière les activités de cette structure créée en 2022 pour apporter aide et assistance aux personnes vulnérables. Comptable à la base, Boza Jean-Guillaume n'a pas hésité un seul instant à nous parler de son engagement en faveur de la santé rénale en Côte d'Ivoire depuis 2021. Fin de ce rendez-vous, la semaine prochaine, retrouvons-nous pour d'autres défis humanitaires à relever.
Humanitaire. Humanitaire, pour une bonne visibilité des actions d'aide et de protection des populations en Côte d'Ivoire sur Radio de la Paix. Présentation, Sonia Ndiang.